France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est la rentrée aujourd'hui, rentrée en musique sur France Musique avec une question, cette question et bien d'autres qui vont autour. Quel est l'avenir des conservatoires? Une question que vous posez, Vincent Agrège, dans le numéro de septembre de Diapason. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Question que nous allons aussi vous poser, Alexandre Grandet, directeur du CRR, le conservatoire à rayonnement régional de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers et La Courneuve. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation. Je précise que nous aurions souhaité avoir aussi sur France Musique la parole des parents d'élèves, mais la FNAPEC, la Fédération Nationale des Parents d'Élèves du Conservatoire, n'a pas souhaité intervenir ce matin sur France Musique. C'est dit. Avant d'entrer dans les détails, le grand blues des conservatoires, c'est le titre du magazine Diapason, Vincent Agrège. C'est le sentiment que vous avez eu en menant cette enquête?
Alors, ce n'est pas le sentiment qu'on a en rencontrant, heureusement, tous les enseignants et les directeurs. Alexandre ne m'a pas l'air trop bluesy de manière générale. C'est plutôt, en revanche, le sentiment d'une menace qui pèse très très fortement sur notre enseignement spécialisé. Les racines du mal, d'ailleurs, sont assez anciennes. Il y a eu des réformes importantes qui ont été mises en avant au début des années 2000, mais aussi une crise des finances publiques très importante autour de 2010. Aujourd'hui, les conservatoires payent un décalage entre leur mission et la faiblesse de leurs moyens qui est à l'origine de ce blues.
On va détailler tout ça dans quelques instants. Vous confirmez, Alexandre Grandet, vous n'avez pas le blues?
J'ai absolument pas le blues ce matin. Non. Je suis ravi de recommencer cette année au conservatoire.
Au conservatoire de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, un conservatoire où on trouve dans la classe de musique de chambre, quatre jeunes musiciens, le quatuor Von Kuik, ils en enseignent chez vous, vous confirmez?
Absolument.
Et les voici, dans Mozart, tout sauf blues.
Thank you.
presto final du divertimento que chez le 136 en ré majeur par le quatuor Von Kuik qui enseigne donc la musique de chambre au CRR 93 d'Aubervilliers-Lacourneuve, dont vous êtes le directeur Alexandre Grandet. Vous êtes avec nous pour parler des conservatoires avec Vincent Agrège de Diapason. Avant de se lancer dans différentes questions sur différents points, l'argent, la pédagogie, les inscriptions, peut-être une définition, parce qu'on est un peu perdu. Il y a les CRR, avant on disait CNR, il y a évidemment les conservatoires supérieurs. Vincent Agrège, expliquez-nous, c'est quoi tous ces conservatoires? Je lisais dans Diapason, en gros, il y a 43 CRR et puis à peu près 400 écoles de musique en France.
Oui, c'est à peu près ça, un peu moins de 400 écoles qui sont conventionnées et qui portent donc le nom de conservatoire, avec un millefeuille qui commence par les conservatoires à rayonnement communal et intercommunal. En plus, tous les 10 ans, les appellations sont revues, ce qui facilite évidemment la lisibilité quand on n'est pas spécialiste du domaine. Il y a à peu près une centaine de conservatoires à rayonnement départemental et 43 conservatoires à rayonnement régional. Et là où ces appellations sont trompeuses, c'est que ce n'est pas la tutelle ni le financeur principal qui est désigné. À 80%, les conservatoires dans notre pays sont financés par les communes. Cette aire géographique départementale et régionale est en fait liée à la variété des cycles, à l'étendue des cycles enseignés entre la musique, la danse et le théâtre. Donc c'est une appellation qui est finalement assez trompeuse, mais qui désigne plutôt la connexion de ces établissements au système d'enseignement supérieur vers lequel les élèves vont ensuite pouvoir aller après leur troisième cycle d'amateur.
Alexandre Grandet, donc vous au CRR 93 Aubervilliers-Lacourneuve, c'est Aubervilliers-Lacourneuve qui finance beaucoup plus que la Seine-Saint-Denis.
Tout à fait. Effectivement, le budget du CRR est composé à 70% par les subventions des deux villes, dans la Seine-Saint-Denis. Après, donc nous, au CRR 93, on a de la chance d'avoir une subvention de l'État, puisque, et ça c'est une exception, parce qu'il y a un désistement de l'État depuis pas mal d'années sur les financements des écoles de musique, de danse, du théâtre, des conservatoires. Donc nous, parce qu'il y a le Pôle Sup 93 qui est rattaché qui est au CRR 93, ou CRR qui est rattaché au Pôle Sup.
Alors les Pôles Sup, on va en dire un mot, puisque vous en parlez, il y a deux conservatoires supérieurs en France, à Paris et à Lyon, mais pour la formation professionnelle, il y a, je crois, 10 pôles supérieurs un peu partout dans la France, avec pas forcément un enseignement de tous les instruments, toutes les pratiques instrumentales, vocales, mais avec des pôles d'excellence, pôles supérieurs. Hein.
Oui, tout à fait, parce que la France, comme souvent, a fait la figure d'exception avec ces deux conservatoires nationaux, c'est-à-dire les deux conservatoires supérieurs. Enfin, moi, je suis d'origine russe, en Russie, dans chaque grande ville, on a un conservatoire supérieur, enfin, équivalent du CNSM dans les grandes villes. Donc, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas assez, sans doute, pour former les musiciens professionnels, si on parle de la musique, parce que c'est, dans la plupart des cas, ce sont l'enseignement de la musique. Et donc, on a créé depuis une dizaine d'années, donc, les pôles supérieurs d'enseignement, enfin, qui s'appellent différemment d'ailleurs, selon les établissements, donc, qui préparent les futurs musiciens professionnels et pédagogues, parce que dans les pôles sup, on enseigne aussi, enfin, on peut obtenir aussi un diplôme d'État de professeur de musique, notamment. Donc, voilà, professeur et musicien.
Il faut noter d'ailleurs qu'il y a 50 ans, l'idée de Marcel Landowski était d'augmenter en France le nombre de conservatoires nationaux supérieurs et qu'il souhaitait une dizaine de conservatoires supérieurs à travers le pays. Pour des raisons financières, cette idée n'a jamais été mise en application et donc on s'est retrouvé avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, deux conservatoires supérieurs à Paris et à Lyon et cette dizaine de pôles sup dont les moyens et les périmètres d'enseignement sont beaucoup plus limités.
Quelles sont les missions aujourd'hui des conservatoires? Alors, elles sont vastes, j'imagine. Alexandre Grandet, Vincent Agrège, au terme de votre enquête dans Diapason qui vient de paraître.
Alors, ces missions, elles n'ont cessé de s'élargir. La mission historique première des conservatoires, c'est donc tout simplement d'apprendre la musique à nos enfants, à la fois pour dans le cadre de pratiques amateurs et pour préparer ceux qui vont souhaiter devenir professionnels à intégrer les cycles supérieurs. Mais depuis une vingtaine d'années, ces missions se sont élargies à des missions notamment d'éducation artistique et culturelle, d'inclusion sociale, de communication avec les groupes amateurs qui existent sur les territoires et aussi de pilotage parfois des projets d'éducation musicale en cours collectif avec une visée d'inclusion sociale, comme on connaît par exemple les projets orchestres à l'école, Demos. De plus en plus, les conservatoires sont appelés à soutenir et encadrer ces projets, mais ils n'ont pas forcément des moyens financiers plus importants pour le faire.
On reviendra dans un instant sur ces projets de musique à l'école. Alexandre Grandet, parfois on a encore l'impression que dans les conservatoires, la mission, le but caché, en tout cas pour certains profs, c'est de trouver des grands musiciens qui vont devenir professionnels.
Oui, parce qu'il y a une légende d'un élu que je ne veux pas citer qui a dit « Mais avec tous ces moyens, où sont les Mozart ?» Donc c'est, bien sûr, c'est complètement contradictoire par rapport aux missions dont Vincent vient de citer l'importance. C'est avant tout l'éduquer les enfants et donner aux enfants la possibilité de pratiquer dès le plus jeune âge une activité artistique qui est structurante pour la personnalité. Enfin, il y a beaucoup de, d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de, d'études, les neurosciences lui prouvent que une pratique artistique, musicale ou de la danse, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi la danse dans les conservatoires.
Et le théâtre.
Voilà. En tout cas, dans les CRR, il y a trois disciplines. Donc, dans la pratique musicale ou artistique, on développe la créativité, on booste l'intelligence, on travaille sur l'empathie, le sens de responsabilité, mémoire et plein de capacités comme ça qui sont structurants pour un enfant. Donc voilà, ces missions-là sont au cœur du sujet de nos préoccupations aujourd'hui.
On va rentrer dans des choses très concrètes, les sélections, les inscriptions dans un instant, mais avant je propose une sorte de prière pour la musique avec ce Benedictus de la messe solennelle de Sainte-Cécile de Gounod. C'est Pilar Lorengar qui chante, Jean-Claude Hartmann dirige l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, bien sûr. Benedictus, extrait de la messe solennelle de Sainte-Cécile, Charles Gounod, Pilar Lorengar, avec l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, un orchestre qui d'ailleurs n'existe plus, dirigé par Jean-Claude Hartmann. On va parler d'abord, si vous voulez bien, messieurs, à propos de ces conservatoires, de leur avenir et de leur blues éventuel, on va parler des inscriptions. Monsieur Grandet, directeur du Conservatoire CRR 93 au Berlier et à Courneuve, comment on s'inscrit dans votre conservatoire? On fait la queue toute la nuit, il y a un tirage au sort, comme
bien sûr,
ça existe.
Et puis on donne les sandwichs le matin. Non, en fait, on
non,
a.
Mais ça existe, hein.
Ça existe. Bon, bien sûr, complètement, oui, effectivement. Donc nous, au CRR 93, depuis pas mal d'années, on a mis en place une année, ce qu'on appelle une année probatoire. C'est-à-dire que, enfin, étant donné qu'on a peu de temps, je ne veux pas expliquer en détail ce système, qui est assez simple. En fait, les nouveaux élèves ont des cours de musique dans un petit groupe, hein, par petit groupe de 3-4 élèves, tous les, voilà, une fois par semaine, bien sûr. Ça permet de tester leur motivation, ça permet de voir si tout simplement les familles suivent, parce qu'il ne faut pas oublier les familles dans l'histoire, qu'il faut amener son enfant plusieurs fois par semaine à suivre son cours. Voilà, et donc ça permet aussi d'absorber, on va dire comme ça, je ne dis pas la totalité, mais beaucoup, beaucoup, la plupart des demandes d'inscription pour les élèves, pour les familles. Et au bout de la première année, lorsque l'année se passe bien, généralement 90% les élèves restent, après on essaie, autant qu'il vient de le mal, de les dispatcher dans les cours.
Voilà. Vincent Agrèche, là, ce matin, à 8h46, il y a des gens qui nous écoutent, qui n'arrivent pas à inscrire leurs enfants au conservatoire. Il y a un vrai embouteillage, il y a un rapport offre-demande que vous soulignez dans Diapason. C'est une des vraies questions qui est posée aujourd'hui.
Oui, c'est une des questions les plus complexes, celle de l'inscription. Le système qu'applique Alexandre est, à mon avis, la voie de l'avenir. C'est-à-dire arriver à accueillir davantage d'enfants par une première année qui fait davantage appel aux disciplines collectives, pour éviter cet embouteillage que vous mentionnez, auquel toutes les réponses qu'on donne sont imparfaites. La sélection par test d'audition, ça marche moyennement parce que ça permet des fois quelques petits arrangements. Le premier arrivé, premier servi, ça favorise ceux qui ont la possibilité d'aller faire la queue, parfois des nuits entières. On voyait ça dans les conservatoires d'arrondissement parisien à une époque.
Avec parfois des gens qu'on paye dans les familles les plus riches.
Donc ça, c'est pas satisfaisant.
Vous racontez dans Diapason.
Exactement. Et le système de tirage au sort qui s'applique aujourd'hui à Paris et dans d'autres villes de France, il n'est pas satisfaisant non plus, dans la mesure où il ne permet pas forcément aux plus motivés, à ceux qui vont vraiment ensuite avoir la plus forte envie de continuer, d'intégrer les conservatoires. Donc effectivement, la première solution, ça passe par un accueil plus large et donc trouver des pédagogies qui permettent de travailler avec davantage d'enfants.
Et l'une des pédagogies qui est très à la mode, c'est les cours collectifs, ce qu'on appelle les cours collectifs. Alors il y a tous les cours de musique à l'école, les orchestres à l'école, Demos, les exemples de El Sistema. Est-ce que c'est pas ça la solution miracle, messieurs ?
La solution miracle n'existe pas. À mon sens, les solutions miracles n'existent pas. Je pense que mettre ce que un peu la tendance des fois mettre dos à dos, on va dire comme ça, le cours individuel avec le cours collectif, c'est une erreur pédagogique. Il faut les deux. Il faut que bien évidemment, à un moment donné, les élèves puissent avoir la possibilité de travailler avec le professeur, mais bien évidemment, les cours collectifs ou les cours, ce que moi je préconise énormément, en pédagogie de petits groupes, sont fondamentaux parce que ça permet justement aussi travailler sur un moteur essentiel qui s'appelle la motivation.
Parce que les cours collectifs, c'est tout à fait différent de la pratique orchestrale dans le cadre du conservatoire, qui fait partie du cursus, Vincent Agrèche.
Oui, et je crois que là-dessus, il faut être extrêmement clair et souligner un danger important aujourd'hui. On a vu le succès des projets d'orchestre à l'école, de Demos, de tous ces projets qui permettent de sensibiliser les enfants hors du cadre des conservatoires à un certain type de pratique musicale. Il y a aujourd'hui un vrai danger de la part des élus, en gros, de saupoudrer moins d'argent en délaissant le cœur de l'enseignement, et on ne peut pas attendre de ces pédagogies collectives qu'elles jouent le même rôle que l'enseignement traditionnel au sein des conservatoires. En revanche, il faut, comme le disait Alexandre, articuler une initiation en collectif au sein des conservatoires qui permet d'accueillir un nombre plus important d'enfants, avec rapidement le face-à-face pédagogique qui va permettre de structurer, selon les besoins de chaque enfant, son perfectionnement et son évolution dans le parcours musical. Et c'est aujourd'hui vraiment un danger majeur de voir de nombreux élus qui disent « Ah ben, on va réduire les subventions du conservatoire et à la place, on va ouvrir 2-3 classes d'orchestre à l'école qui nous coûteront 10 fois moins cher. » Et on pourrait vraiment affronter une chute du niveau dans ce pays si ce problème perdure. Pédagogie démagogique dans ce cas précis, malheureusement.
Allez, voici l'orchestre symphonique Simon Bolivar, dirigé par Gustavo Dudamel. C'est évidemment le modèle El Sistema, décrit à de multiples reprises en Diapason, avec son bien et son moins bien.
Formidable modèle à bien des égards, avec un certain nombre de défauts, mais qui justement a toujours articulé pédagogie collective et perfectionnement individuel, ce qu'on ne dit pas assez.
Il joue et il chante. Mambo, extrait de West Side Story de Leonard Bernstein, l'orchestre symphonique Simon Bolivar, dirigé par Gustavo Dudamel. Nos invités ce matin dans Musique Matin pour parler de l'avenir des conservatoires, Vincent Agrèche avec cette enquête qui vient de paraître dans le mensuel Diapason. Il y a aussi une interview d'ailleurs de Bruno Mantovani qui vient de quitter le Conservatoire supérieur de Paris. Et avec nous aussi Alexandre Grandet, directeur du CRR 93 d'Aubervilliers-la-Courneuve. Précisément, le fait que ce conservatoire soit sur des territoires avec... on va dire des parcours de familles très différents, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, à la Courneuve. Vous avez une mission particulière par rapport, je sais pas, au CRR d'autres territoires plus riches.
Les missions sont définies.
C'est un des départements les plus pauvres de France.
Oui, complètement. Les missions sont définies par les textes, donc elles sont plus ou moins les mêmes sur l'ensemble des conservatoires, mais bien sûr, chaque conservatoire est fortement rattaché au territoire sur lequel il est implanté. Donc, bien sûr. 93, sans faire les clichés de ce territoire. Donc, bien sûr, je vous donne un exemple concret sur le quotient familial selon lequel les élèves s'inscrivent, les familles s'inscrivent. Nous, 60% de nos familles sont les quotients le plus faible, c'est-à-dire payent 68 euros, même pas certains par an. Donc, c'est un facteur important. Donc, bien sûr, pour nous, le facteur de la démocratisation culturelle elle est extrêmement important parce que ça permet aux enfants, aux familles, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quels que soient leurs moyens, de pouvoir bénéficier de l'éducation artistique qui est fondamentale, je le rappelle encore une fois, pour tout simplement l'épanouissement et pour la construction d'une personnalité épanouie, heureuse et peut-être un peu plus créative, d'un être humain.
Vincent Agrèche, les conservatoires sont-ils réformables au terme de votre enquête?
Les conservatoires sont-ils réformables? Oui, certainement. Il y a tout un arsenal de réformes proposées, dont certaines extrêmement pertinentes dans la première décennie des années 2000. Comme on le disait tout à l'heure, le fond du problème vient des moyens qui n'ont pas suivi. On est toujours dans un mouvement de décentralisation des moyens, avec un jeu de poker menteur entre l'État et les collectivités territoriales. Je suis censé te déconcentrer ces crédits, mais finalement je n'ai pas te les donner. Ah ben tant mieux, parce que je les aurais utilisé pour autre chose. Donc du coup, les conservatoires ont vraiment fait les frais d'une réforme non pas pédagogique, mais administrative, qui tend à réduire leurs moyens. Ce qui est infiniment dommage, parce que, ce que disait Alexandre à l'instant, ils sont au cœur d'un écosystème à la fois culturel et social qui est extrêmement riche. Les conservatoires, c'est à la fois un moyen de faire passer une éducation spécialisée de qualité auprès de populations qui en seraient habituellement privées, et de les raccorder à des pratiques professionnelles, notamment avec les saisons de concert. On n'a pas évoqué le rôle des conservatoires dans ces saisons.
On en reparlera cette année dans Musique Matin. Conservatoire de France, une décennie en enfer, c'est votre enquête, Vincent Agrèche, à lire dans Diapason. Merci d'être venu dans le studio de France Musique ce matin. Merci à vous, Alexandre Grandet. Bonne rentrée au CRR 93 d'Aubervilliers, la Courneuve, où c'est Guillaume Connaisson qui enseigne la composition. Thank you. festifs, les conservatoires festifs, ce sextuor de Guillaume Connaisson, professeur de composition au CRR 93. Demain, notre invité sera l'altiste Antoine Tamestit pour son nouveau disque Bach au générique de Musique Matin. Aujourd'hui, Marion Guillemet, Ludovic Auger, Antoine Maglin, Éric Plesco et Yacine Bouzard.
À réécouter sur francemusique.fr.